Bienvenue, bienvenue pour cette émission de Déclencheur.
La photo, comme vous ne l'avez jamais entendu.
Une émission très intéressante où l'on parle de l'essentiel en photographie, puisqu'on va parler de l'éclairage. J'ai rencontré Arthur Azoulay, il vient de sortir un livre sur le flash. Moi, j'ai une approche très technique du flash. Je l'utilise pour positionner parfaitement mes lumières en étant 100% en contrôle. Il n'y a jamais de surprise quand je photographie au flash. Arthur est plus instinctif. Et donc, cette confrontation d'idées, je l'ai trouvée, comme souvent, enrichissante. Je suis certain que vous partagerez mon avis. Toutes les semaines, Déclencheur vous propose d'excellentes émissions sur la photo.
Avec Benoît Marchal.
À télécharger et à écouter où vous voulez, quand vous voulez. Pour être averti de la sortie de nouvelles émissions et pour beaucoup de contenus supplémentaires, inscrivez-vous sur www.déclencheur.com. Arthur Azoulay, bonjour.
Bonjour Benoît.
Bah, tu viens de sortir un livre, alors c'est pas le premier, hein, avec Aurélie Coudière,
oui.
Chez Pearson,
c'est
sur
ça.
La photo au flash.
Exactement.
D'ailleurs, Arthur nous fera des jolies animations
en lightning. Voilà. Alors, c'est assez intéressant ce que tu dis, parce que bon, en dehors des bouquins, donc je fais des tests pour
Focus Numérique.
Ton confrère, voilà, Focus Numérique.
Avec et, qui on est au salon de la photo sur le stand de l'Agora du.
Voilà, on pourra tous se retrouver là-bas.
Donc le bouquin s'appelle Zoom sur la photo au flash.
Ouais.
Pour le coup, le flash, c'est un des derniers sujets où la technique reste encore assez importante. Je veux dire qu'il y a tellement d'automatismes dans les boîtiers aujourd'hui qu'on peut réalistement prendre un boîtier, on aura une photo qui techniquement sera bonne, dès le départ. Parce qu'elle sera nette, elle sera correctement exposée, etc. Dès qu'on a fait intervenir un flash dans le bazar, que ce soit le petit flash intégré qui s'allume tout seul, etc., là, tout de suite, la qualité de l'image en automatique baisse très fort.
Je suis complètement d'accord avec toi, et c'est pour ça que le flash fait peur pour les débutants. Parce que justement, ils le maîtrisent mal, ils ne savent pas comment l'utiliser, quand l'utiliser, et à quoi ça peut réellement servir. C'est pour ça que... aller plus loin, prendre un peu de temps, mais tu disais que c'est un domaine qui est assez technique, je suis d'accord et je suis pas d'accord. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a compris les deux, trois petits trucs de base, c'est-à-dire voilà, régler la puissance, travailler en direct ou en indirect, on a à peu près fait le tour du truc, et après c'est que de la créativité, entre guillemets. Nous, ce qu'on essaye de mettre en avant dans notre bouquin, c'est pour le coup l'éclairage créatif, et d'aller plus loin et de prendre le contrôle de la lumière.
Et vous, vous inscrivez dans un peu dans la tendance strobiste quelque part.
Voilà, c'est ça, c'est que le mouvement qui lui a donné un nom, David Hobby de mémoire, le strobiste est en train vraiment de se démocratiser. Donc, alors, le matériel y est pour beaucoup, les systèmes de synchronisation de flash entre les boîtiers et les petits flashs de reportage sont beaucoup plus simples et sont beaucoup plus répandus. Et on voit maintenant pas mal de constructeurs qui commencent à développer une gamme assez impressionnante d'accessoires à utiliser dessus, donc... Ça commence vraiment à être une pratique abordable, simple à mettre en œuvre et qui permet vraiment d'aller beaucoup plus loin dans la pratique de la photo avec des éclairages complexes au flash. Tout le monde entend d'abord flash de studio, on associe beaucoup plus les éclairages entre guillemets créatifs avec des flashs de studio, mais nous on s'intéresse particulièrement à l'utilisation des flashs Cobra qui pour beaucoup de personnes sont assez obscurs, assez complexes et assez effrayants à utiliser.
Donc il y a quoi, il y a 250 pages. Ça démarre avec une explication du matériel, ce que c'est qu'un flash.
Voilà, c'est ça. Au début, on revient sur qu'est-ce que c'est un flash, comment ça fonctionne, quel type de flash Cobra on peut trouver, parce que bon, les grands constructeurs ont des gammes assez impressionnantes de flash Cobra, 3 voire 5 références différentes. Donc on a tout un chapitre qui est justement là pour expliquer finalement comment, qu'est-ce qu'on doit choisir quand on veut se lancer dans le strobisme entre guillemets. On fait un chapitre aussi sur comment accessoiriser son flash et comment modeler la lumière qui sort de son flash. Et après, on rentre dans la pratique. On a conçu le bouquin par étapes. C'est-à-dire qu'on va commencer par voir ce qu'on est capable de faire avec le petit flash d'appoint qui est embarqué dans l'appareil. Bon, ça reste assez limité, mais dans certains cas, ça peut permettre quand même de sortir de certaines situations difficiles. Après, on va passer sur un chapitre avec une configuration très simple, c'est-à-dire un flash Cobra simplement monté sur la griffe porte-accessoire de l'appareil, qui permet de commencer à travailler en flash indirect. Le chapitre suivant, donc c'est la même chose, mais en flash déporté. Pour le
coup. On enlève le flash de la
voilà, mais un avec une seule tête. Et enfin, le dernier chapitre, donc c'est une introduction au multi-flash. Donc c'est comment gérer plusieurs têtes de flash à partir d'un seul et même appareil.
Avec à chaque fois des exemples dans les principaux types de sujets, portraits,
voilà, c'est ça.
Nature,
on va retrouver des thématiques
macro,
très très simples. Alors bon, voilà, c'est pas des cours de photo, nous on donne que des techniques, on essaye de les appliquer à des choses très très simples, mais voilà, c'est justement pour comprendre ces techniques et après les appliquer à ce qu'on aime faire.
Tu disais les constructeurs maintenant offrent pas mal de produits. Je crois maintenant que
tous les constructeurs, puisque Canon a fini par l'intégrer, ont une solution. Il y a peut-être Panasonic qui ne le fait pas. Ont une solution en fait qui permet sur le boîtier, avec un boîtier récent, de directement gérer un flash déporté qu'on installe n'importe où.
Ouais. Tous les constructeurs, maintenant quasiment tous en tout cas, proposent cette option-là. En tout cas sur leurs boîtiers qui sont équipés d'un petit flash d'appoint, parce que tous les boîtiers ne le sont pas. Par exemple, le Canon 5D Mark II n'est pas équipé d'un petit flash d'appoint. Malgré cela, il y a quand même beaucoup de choix. Alors bon, Canon en l'occurrence, parce que je connais particulièrement bien, mais chez Canon, ils ont à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 modèles de flash différents. Donc depuis l'entrée de gamme qui est le 270 EX2 de mémoire jusqu'au flash hyper spécifique, donc le ring flash pour la macro ou un flash spécialement conçu lui aussi pour la macro avec les petites têtes orientables autour de l'objectif. Alors à mon sens, pour démarrer, c'est beaucoup plus simple de partir tout en manuel et de venir régler manuellement la puissance sur chaque tête plutôt que d'essayer de tout faire directement depuis le boîtier. Parce que on s'est rendu compte que finalement, gérer plusieurs têtes de flash à partir de l'interface de l'écran arrière d'un boîtier, c'est assez compliqué. On peut le faire, mais il faut rentrer dans des menus, sous-menus, c'est pas rapide, les puissances des différents flashs sont exprimées en rapport de puissance, donc il faut comprendre un peu la mécanique de présentation des réglages directement dans le boîtier.
D'accord, et alors dans ce cas-là, tu les déclenches comment ?
Alors, il y a pas mal de possibilités. Certains modèles utilisent un mode cellule classique, donc on utilise le petit flash d'appoint qu'on règle au minimum de sa puissance pour pas que ça intervienne dans l'éclairage de la scène et ça permet de synchroniser les autres flashs en déporté. Il y a des systèmes infrarouges qui permettent de synchroniser donc le boîtier et les flashs récepteurs. Par exemple, chez Canon, pour un 5D Mark II, il existe un module qui s'appelle de mémoire le STE2, qui est un module infrarouge qui permet voilà, de synchroniser des flashs Cobra Canon équipés d'un récepteur infrarouge. Mais bon, on n'est pas forcément toujours obligé de rester chez le même constructeur, dans la même marque, etc. Il y a des petits émetteurs récepteurs radio, pour le coup. Donc voilà, c'est hyper simple. Donc on peut régler différents canaux. On l'installe sur la griffe porte-accessoire du boîtier. Donc ça, c'est l'émetteur. Et on installe le récepteur sur le flash. Hop. Et là, c'est hyper simple. Tout est synchronisé parfaitement. C'est un système radio, donc on a une portée très importante. Pas de problème d'obstacle, de perte de signal. Mais par contre, l'utilisation de ce système-là sous-entend qu'il faut venir faire les réglages de puissance manuellement sur chaque tête. Et qu'il faudra autant de récepteurs que de têtes.
Tu as des beaux Canon, dernier modèle, dernier cri, hors de prix, mais on peut aussi prendre des modèles d'occasion, des modèles plus vieux, puisque de toute façon, on va les utiliser en manuel.
Bien sûr, voilà, à partir du moment où on utilise son système en manuel, voilà, même un flash d'il y a 15 ans fonctionnera tout aussi bien que le dernier modèle, le SB700, le SB900, ou chez Canon, le 580 EX2, qui sont relativement cher à l'achat parce qu'ils intègrent tout un tas de technologies mais que finalement on ne va absolument pas utiliser. Donc oui, sans problème, on peut se monter un très beau kit avec du matériel d'occasion pour le coup qu'on arrive à faire communiquer tout ce beau monde, quoi. Un flash, si on ne laisse pas trop traîner des batteries qui travaillent à l'intérieur, c'est quasiment indestructible. Ça, c'est une bonne option. Maintenant, si on a un peu peur et qu'on ne veut pas se prendre la tête et qu'on a envie, par exemple, d'utiliser son flash en situation de reportage, où là, pour le coup, on est obligé de laisser un peu les automatismes de l'appareil travailler pour nous, là, autant passer sur un système un peu plus moderne. Je pense que voilà, une bonne config de base, c'est un petit flash Cobra et un petit système pour pouvoir l'utiliser en déporté. Pour démarrer, ça me semble une bonne config. Puis après, si on y prend goût, on multiplie les têtes, les accessoires et tout le bazar qui va avec.
Sur l'accessoire dont vous avez besoin, c'est un livre qui s'appelle « Zoom sur la photo flash » de Arthur Azoulay et d'Aurélie Coudière. Le deuxième type d'accessoire, je pense qu'il faut pour utiliser le flash, donc c'est tout ce qui va permettre de contrôler le flash.
Voilà, c'est ça, enfin de contrôler,
modeler.
Modeler la lumière du flash. Ça, c'est vrai que voilà, ça, pour le coup, c'est vraiment un secteur qui est en train de se développer énormément et les constructeurs n'arrêtent pas de sortir toute une multitude d'accessoires à installer sur la tête du flash pour pouvoir un peu modeler la lumière. Alors bon, c'est des choses très classiques, hein, on va retrouver rigoureusement le même type d'accessoires, en tout cas dans leur conception et dans la manière dont ils fonctionnent, qu'on a l'habitude de voir sur des flashs de studio. Alors on va trouver des boîtes à lumière, des systèmes à parapluie, des snoods, des volets coupe-flux, des grignis d'abeilles, des filtres colorés. Donc tous ces accessoires qui existent depuis très longtemps sur le flash de studio commencent à arriver en version compatible avec les flashs Cobra. Alors bon, c'est clair que si on monte une boîte à lumière de 60 par 60 là-dessus, ça ressemble plus vraiment à un système compact, mais on obtient presque quasiment le même type de résultat en termes de qualité de lumière que ce qu'on obtiendrait avec un système de flash de studio.
Tu n'as pas l'impression parfois que certains fabricants ont vraiment trouvé la carte strobiste et vendent super cher des trucs qu'on peut bricoler soi-même pour 3 francs 6 sous?
Ouais, je suis d'accord. Il y a un site qui est très très bien pour ça, le die.com, do it yourself. On peut tout bricoler soi-même. Encore faut-il prendre le temps de le faire. Après, ces accessoires, ils sont quand même plutôt bien conçus. Alors, prends l'exemple des boîtes à lumière. Il y a l'Astolite, là, qui crée des petites boîtes, qui s'appelle ça les Easy Box, qui sont complètement pliables, un peu ambiance tante Quechua ou les réflecteurs l'Astolite, qui sont mondialement connus et utilisés à peu près partout. Moi, je suis très attaché à l'ergonomie des produits. Pour moi, c'est quelque chose de primordial, aussi bien pour du matériel de prise de vue que pour des flashs, que pour les accessoires. Alors, il y a des constructeurs qui font ça mieux que d'autres.
Quand est-ce que tu vas dire, tiens, là, je vais prendre un flash Cobra, là, je vais plutôt prendre un système de studio puisque tu as accès aux deux?
Disons que, bon, voilà, quand je suis dans une configuration studio ou finalement avoir un système sur batterie, un système mobile, là, j'en ai absolument rien à faire, je reste avec mon système de studio, c'est peinard, je suis en intérieur, j'ai de l'électricité à portée, pas de souci. Mais l'intérêt d'un système Cobra, c'est que justement, ça permet d'ouvrir ces éclairages créatifs dans des environnements sur lesquels on n'a pas l'habitude d'utiliser le flash. Donc, voilà, typiquement, on veut aller en extérieur, on veut aller dans une salle, dans un parc, peu importe. C'est dans ces moments-là, ou en extérieur de nuit, où là, pour le coup, c'est vraiment génial d'utiliser les flash Cobra. Dans toutes ces situations-là, où on n'a pas envie d'être trop chargé, où on n'a pas de prise électrique sous la main, c'est hyper intéressant donc, de travailler en Cobra. Un cas de figure où il peut être intéressant donc, d'utiliser l'éclairage au flash, que ce soit studio ou peu importe, c'est quand on a affaire à un sujet qui est relativement contrasté. Alors le contraste d'un sujet, il faut bien comprendre que c'est la différence entre le point le plus sombre du sujet et le point le plus clair du sujet. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que tous les appareils photo disposent d'une dynamique de capture, qui est plus ou moins large. Okay ? Dynamique de capture, c'est l'écart maximum qu'il pourra y avoir entre le point le plus lumineux de l'image et le point le plus sombre de l'image. Et que finalement, si on se retrouve avec un sujet qui a un contraste beaucoup plus large par rapport à la dynamique de capture de l'appareil, là, on est obligé de faire un choix. Soit je vais avoir tous mes détails dans les zones sombres, mais je vais avoir aucun détail dans les zones claires.
Qui seront blanches.
Voilà, qui seront complètement cramées, qui seront blanches. Soit à l'inverse, je me positionne de l'autre côté. J'expose pour les lumières. J'ai tous mes détails dans les zones claires, j'ai absolument plus rien dans mes zones sombres.
Donc mes nuages ont bien tout le modelé, etc.
Voilà, mais j'ai du noir absolu dans les zones les plus sombres de mon nuage. Soit je positionne mon exposition pour les hautes lumières, où là j'ai tous mes détails dans les zones claires et absolument rien sur les zones sombres. Soit je me mets à peu près au milieu, et du coup, mes valeurs moyennes sont parfaitement restituées, et j'ai assez peu de détails dans les zones sombres et dans les zones claires. Bon bah, dans ce cas de figure, ce qu'on peut faire, c'est tricher. Finalement, réduire artificiellement le contraste du sujet. On va venir, avec le flash, rééclairer les parties les plus sombres du sujet pour réduire le contraste, si bien qu'on rentre dans la dynamique de capture de l'appareil. Alors, soit sans flash, on part dans une logique HDR et on va faire 3 expositions différentes qu'on va fusionner après en post-traitement, ou alors on peut utiliser le flash pour tricher. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire le contraste du sujet. On va venir avec le flash rééclairer, si le sujet s'y prête, les zones les plus sombres du sujet pour finalement partir d'un contraste initial comme ça et le faire venir coïncider avec la dynamique de capture de mon appareil.
Quand j'en avais parlé avec David Tubby, il m'avait dit ce qui est aussi très intéressant à faire avec ce type de flash, ça va être de faire un mélange lumière ambiante, lumière au flash. Tu confirmes ?
Complètement. C'est là où justement ça porte vraiment son intérêt. Donc pour le coup, on est en extérieur avec une certaine lumière ambiante et la possibilité d'utiliser des flashs Cobra nous permet de pouvoir apporter de la lumière là où il n'y en avait pas assez ou là où on veut porter l'attention pour l'observateur. Et avec un peu de pratique, le mélange entre éclairage au flash et lumière ambiante se fait très harmonieusement. Pour beaucoup de personnes, et a priori c'est normal, ils associent le flash à « j'ai pas assez de lumière, donc je sors mon flash ». Bon. Et il l'utilise toujours de la même manière, c'est-à-dire monter soit sur la griffe porte-accessoire de la boîtier, orienté en frontal, donc ça fait un éclairage extrêmement dur, toujours le même, et donc au final des images qui deviennent très vite assez lassantes. Et comme le système est utilisé en mode automatique, généralement l'appareil gère son exposition en fonction de la puissance du flash. Donc généralement on a le sujet principal qui est parfaitement exposé, donc avec un éclairage hyper dur, et on perd complètement l'ambiance lumineuse à l'arrière-plan. Mais dès qu'on va un peu plus loin et qu'on commence à se rendre compte que finalement travailler au flash ou un 1/30 de seconde, ça peut avoir un sens, on va pouvoir commencer à envisager l'éclairage de deux manières. On va régler l'exposition de son appareil pour l'éclairage ambiant, et on va venir rajouter de la lumière là où on veut avec le petit flash Cobra. Voilà, on veut faire un portrait en extérieur de nuit, alors on imagine truc cliché, Paris, les quais de Seine, voilà, on a les illuminations à l'arrière-plan. On se positionne sur trépied, on va régler son appareil en manuel de telle sorte à correctement exposer l'arrière-plan, le paysage, l'environnement dans lequel se trouve le personnage principal. Et si par exemple, moi, je sais que je vais éclairer mon personnage avec mon flash, je vais d'abord régler mon appareil pour l'exposition de tout ce qu'il y a autour de mon personnage. Mon personnage, je ne m'en occupe absolument pas. Donc voilà, s'il me faut un temps de pause de 4 secondes pour l'arrière-plan, bon bah voilà, je règle mon temps de pause de 4 secondes pour pas avoir trop de bruit et pas utiliser des sensibilités ISO astronomiques, pour avoir voilà un rendu des valeurs agréable sur mon arrière-plan. Une fois que j'ai fait ça...
Donc là, tu vas mettre la cellule en mode point et tu vas aller piquer 2-3 endroits dans l'arrière-plan.
Alors soit on fait une moyenne à prépondérance centrale, soit on fait quelques essais, on vérifie sur l'histogramme. Bon, il y a 12 milliards de façons de régler ça. Enfin, de toute façon, moi, je suis assez partisan de toujours tout faire en manuel, même si c'est un peu plus long. Quand on a le temps de le faire, c'est quand même beaucoup plus appréciable. Donc voilà, on règle son appareil pour l'éclairage ambiant. Et une fois que j'ai fait mes réglages pour l'environnement, je prends mon flash, je le positionne là où je veux et je vais régler sa puissance pour que le personnage qui se trouve au premier plan soit correctement exposé.
Manuellement, sur le flash, sur le boîtier sur...
Alors, bon, si on veut tout régler depuis le boîtier, on peut. Moi, je préfère le faire sur le flash. Alors, il faut souvent faire quelques petits essais, puisque pour le coup, la cellule, elle, fonctionne pour l'environnement et pas le sujet principal.
Tu n'utilises pas un flashmètre ?
Non, si en plus on rentre dans une configuration avec un flashmètre, ça devient un peu une usine à gaz, tout ça. Donc voilà, on fait un premier essai à la demi-puissance, au quart ou un huitième, ça va quand même assez vite.
D'accord, donc tu fais un quart par exemple, tu regardes l'histo, tu
voilà,
dis voilà,
on regarde, voilà si bien. On est complètement cramé, bon bah on peut se mettre direct ou un 16e, il n'y a pas de souci, ça va quand même relativement
si,
vite.
Si par contre c'est vachement encore tout noir, on repousse.
Là on remonte la puissance, puis après on peut jouer sur la distance entre le flash et le personnage qu'on veut exposer. Quoi.
C'est vrai qu'on a tendance à l'ignorer, mais il y a beaucoup de manières d'influencer la puissance du flash.
Et bien sûr, il y en a énormément. Donc déjà, tout dépend de la manière dont on l'utilise. Est-ce qu'on travaille en flash direct ou en flash indirect? Mais dans tous les cas, la distance par rapport soit au sujet en éclairage direct, soit à la surface réfléchissante en éclairage indirect, va beaucoup jouer sur la puissance de l'éclairage final.
Ok, mais si tu fais ça, tu risques d'avoir un problème parce que le fond et le sujet vont pas être... les couleurs vont pas s'harmoniser.
Voilà, complètement. C'est-à-dire, dès qu'on travaille en éclairage mix, entre guillemets, il faut bien prendre conscience que deux types d'éclairage peuvent ne pas avoir la même température de couleur. Et selon le réglage de balance des blancs qu'on va choisir sur son appareil, on va équilibrer pour un éclairage ou pour l'autre, et faire apparaître forcément du coup une dominante sur le second. Alors ça peut être un choix purement esthétique, mais dans certains cas, on peut pallier à ce choix-là. Et certains constructeurs livrent leurs flashs avec des petits filtres. En l'occurrence Nikon, voilà, les flashs sont livrés avec un petit filtre orangé et un petit filtre vert qui sont conçus pour justement mixer l'éclairage au flash avec un éclairage tungstène ou avec un éclairage fluo. On positionne le petit filtre sur la tête du flash, ce qui fait forcément un peu baisser la puissance. Et on règle la balance des blancs, en l'occurrence si on utilise le filtre orange en tungstène sur son boîtier, ou si on utilise le filtre vert en balance des blancs fluorescent. Et du coup, on a un éclairage qui est uniforme en termes de rendu couleur.
Ce dont on a parlé jusqu'à présent, effectivement, c'est une situation de photo quand même plutôt posée, on est bien d'accord?
Ouais. En reportage, on est plus sur la spontanéité. On ne peut pas prendre le temps, par exemple, de monter son trépied, son truc. Généralement, on a son flash installé sur la griffe porte-accessoire. Alors, on l'utilise en direct ou avec un petit réflecteur. Mais grosso modo, voilà, une fois qu'on a fait les réglages, on ne va pas trop en changer. Donc, c'est vrai que dans certains cas, ça peut être intéressant de disposer des automatismes de mesure de lumière et d'exposition flash embarqués par l'appareil. Mais l'un n'empêche pas l'autre.
L'autre aspect qui me semble intéressant aussi, parce que c'est aussi souvent une source de questions autour du flash, et que vous l'expliquez bien également dans le livre, ça va être tout ce qui va concerner modeler la lumière, l'adoucir, etc.
Ouais. Alors en fait, il y a différentes façons de travailler la lumière. Pour essayer de simplifier les choses, on peut partir avec une lumière très dure, très violente, ou au contraire une lumière très douce, très diffuse. L'intérêt d'un flash, c'est que justement, on va pouvoir jouer là-dessus. On n'a pas du tout le même rendu au niveau d'une image si on l'éclaire avec un éclairage extrêmement dur ou si on l'éclaire avec un éclairage très diffus.
Un éclairage très dur, c'est pour situer, c'est la lampe torche qui fait des...
Alors voilà, on imagine un éclairage en frontal, le même type d'éclairage qu'on pourrait obtenir à 14h en plein soleil en extérieur. Ou en inverse, un éclairage très doux, c'est ce qu'on pourrait obtenir peut-être à 17h sous un ciel un peu voilé, nuageux, où finalement le ciel se transforme en une énorme boîte à lumière. Si on veut partir sur un éclairage dur, entre guillemets, on va orienter la tête du flash directement vers son sujet. C'est une première option. La deuxième option, et c'est tout l'intérêt d'avoir un flash Cobra équipé donc d'une tête orientable, pour avoir un éclairage beaucoup plus doux, on va travailler en ce qu'on appelle en indirect. C'est-à-dire qu'on va faire se réfléchir la lumière du flash sur une surface avant qu'elle soit renvoyée vers le sujet. Ça, c'est une première option. Alors après, pour aller plus loin, on peut utiliser des accessoires. Alors le plus connu pour faire un éclairage diffus et doux, c'est la boîte à lumière. Alors on ne peut pas non plus mettre des boîtes de 1 mètre sur 1 mètre hein, sur un petit flash Cobra, on imagine bien. Mais bon voilà, une petite boîte carrée de 30 cm par 30 cm ou 60 cm par 60 cm, ça permet d'avoir un éclairage extrêmement plat et uniforme. Et qui est assez agréable sur des images en portrait notamment. Moi j'aime bien les portraits avec des éclairages doux, parce que justement ça permet donc d'adoucir les traits du visage, les défauts de peau. Moi, je trouve ça assez esthétique. Même si, comme toute technique, il ne faut pas en abuser, parce que si on fait toujours les mêmes images, ça devient vite très chiant.
C'est ça qui est intéressant avec du flash, c'est qu'on va pouvoir varier beaucoup ces types d'images.
Ben voilà, dès qu'on travaille au flash, on a le contrôle de la lumière. Alors, limite, il n'y a plus de place au hasard, il y a pire, c'est plus l'environnement dans lequel on se trouve et les conditions météorologiques, entre guillemets, qui font la lumière d'une image. On contrôle absolument tout. Et du coup, voilà, on peut, ne serait-ce qu'avec l'éclairage, apporter une intensité, une intention à une image, que ce soit un portrait, une nature morte, un paysage, etc.
Harcourt a fait toute son histoire en faisant des éclairages durs en portrait.
Tu parlais donc des portraits Harcourt qui travaillent uniquement en lumière dure. Les portraits sont hyper imposants, ça permet de donner de la force, de la présence au sujet. Donc voilà, on crée une intention avec un type d'éclairage. Et au contraire, un portrait qui a été réalisé avec une source de lumière extrêmement douce, extrêmement diffuse, a tendance voilà, à rendre le personnage peut-être, entre guillemets, plus sympathique, plus doux.
D'accord. Un truc qu'on voit énormément sur Internet, et il y en a dans le livre également, ce sont tout ce qui va concerner les schémas d'éclairage.
Oui.
Il y a deux choses. D'une part, c'est vrai que c'est extrêmement intéressant quand on débute avec un flash, parce que ça donne des idées. On se dit, tiens, je ne vois pas trop comment on va pouvoir faire, etc. Et puis d'un autre côté, j'en vois parfois des gens qui se laissent enfermer là-dedans. Qu'est-ce que tu en penses, toi ?
Bah, je suis assez d'accord avec toi. Nous, on les utilise d'un point de vue purement pédagogique. Pour essayer un peu d'expliquer les types de mise en lumière qu'on a voulu expliquer dans l'ouvrage, mais à mon sens, c'est des choses trop, irréelles. C'est-à-dire partir d'un schéma d'éclairage. Avoir un schéma d'éclairage extrêmement précis sur un papier, ça ne fait pas une image, à mon sens. Il y a quand même une part de spontanéité. Et finalement, une fois qu'on a compris deux, trois règles de base en géométrie sur la lumière et la réflexion de la lumière, on est à même très facilement de se faire ces schémas d'éclairage dans la tête. Mais tu sais, c'est assez amusant parce que, alors, on envie toujours les grands photographes de mode qui, soi-disant, mettent des éclairages hyper complexes en place pour sublimer leur sujet. Mais un éclairage en mode, entre guillemets, qu'on va retrouver le plus souvent, c'est une énorme boîte à lumière positionnée à 3 mètres de haut derrière le photographe qui fait une lumière parfaitement plate, parfaitement uniforme et qui évite toutes les ombres et qui permet vraiment de donner une espèce de rendu mode parfait aux images qu'on va créer, qui est finalement l'éclairage le plus simple de la Terre, quoi. Alors, il faut un peu de matériel pour le mettre en place, mais c'est simplement une énorme boîte à lumière. On simule le soleil, c'est aussi simple que ça.
Un des trucs que j'ai bien aimé dans le livre, c'est qu'à un moment, vous dites, il faut comprendre la lumière et à la limite, avant même de commencer à utiliser le flash, regarder le soleil et regarder la lumière sur les gens.
Bien sûr, surtout quand on veut travailler justement en éclairage mixte avec de l'éclairage au flash et de l'éclairage ambiant. Si on a envie d'avoir une image cohérente, c'est-à-dire qu'on ne se dise pas « Ah ben dis donc, ça a été éclairé par le flash », une des premières règles de base, c'est quand même déjà de bien observer comment arrive la lumière naturelle, vers où sont positionnées les ombres, pour finalement, ce que l'on va éclairer au flash, l'orienter dans la même direction. C'est tout simple, mais pour ne pas avoir des ombres qui se croisent finalement entre la lumière ambiante et l'éclairage au flash.
Par exemple, tu as quelqu'un en face de toi, qu'est-ce que tu vas regarder ?
Déjà, on peut essayer d'analyser un peu, entre guillemets, le contraste sur la personne. Parce que généralement, on a toujours une partie du visage ou une partie du sujet qui est plus éclairée que l'autre. On va regarder d'où vient cette lumière. On va essayer de voir, est-ce que c'est une lumière dure ou au contraire, est-ce que c'est une lumière douce ? Comment sont projetées les ombres ? Voilà, c'est vraiment des petites choses toutes simples. Mais c'est ce que j'explique aussi aux gens que je forme. Partez pas trop vite dans la photo. Prenez le temps. Regardez un peu ce qu'il y a autour de vous. Alors, je le dis par exemple pour le cadrage. Voilà, réfléchissez avant de prendre votre photo. Est-ce que vous avez le meilleur point de vue pour photographier ce que vous voulez, ce que vous avez en face de vous ? C'est à peu près la même chose dès qu'on veut utiliser un peu des petits flash Cobra, surtout en lumière, en éclairage mixte. Regardez déjà ce que vous procure la nature pour après optimiser cela avec un éclairage secondaire au flash. Par exemple, si on a le temps de se faire une petite séance posée en portrait avec un seul flash. Et qu'on se dit, bah tiens, voilà, je vais prendre mon temps et je vais essayer de comprendre un peu comment ça se passe quand je déplace la tête de mon flash par rapport à mon sujet. Alors je vais faire un essai avec un éclairage de côté, de l'autre côté, trois quarts, je vais faire le tour, je vais monter, je vais descendre. Et c'est en ça où je te dis que c'est très intuitif, c'est que finalement, on va découvrir progressivement. C'est-à-dire que voilà, on veut faire un portrait, la règle, c'est pas de dire de mettre un flash ici, un flash en contre et un flash en dessous. C'est complètement ouvert. Et on va découvrir soi-même toutes les possibilités d'éclairage qui sont infinies avec ce système-là, de manière très, finalement, très ludique, quoi. Une fois qu'on a compris comment régler la puissance en manuel de son flash, au niveau de la technique, on a fini. Ça s'arrête là.
C'est quoi le bon sujet pour démarrer au flash, à ton avis ?
La nature morte. Un truc qui bouge pas. Un truc où on a le temps de comprendre un peu comment tout ça fonctionne. Pour moi, c'est le sujet le plus simple à démarrer. Pas partir dans des configurations trop complexes dès le début. On va se dégoûter. Ça va pas marcher. Si on fait du portrait, en l'occurrence, la personne va péter les plombs. Elle va en avoir marre. Moi, je suis toujours pour faire les choses progressivement. Pas démarrer tout de suite avec trois têtes. C'est impossible à gérer. Faire les choses vraiment progressivement. Commencer avec une tête. Après, une tête et un réflecteur. Après, deux têtes. Et pourquoi pas un jour passer à au-delà. Mais finalement, il y a assez peu de situations où utiliser plus de deux sources flash, c'est réellement justifié. Plus on multiplie les sources, plus c'est compliqué d'avoir un éclairage cohérent au niveau des ombres, au niveau de ces choses-là. Tout se croise, tout se mélange et c'est un peu difficile. Après, il y a plusieurs façons d'envisager les choses. C'est-à-dire qu'on peut faire tout et n'importe quoi de toute manière avec un système d'éclairage contrôlé. Mais je pense que vraiment que pour un débutant, il faut y aller un peu par étape.
Par étape, ouais.
C'est-à-dire comprendre vraiment comment ça fonctionne pour après, entre guillemets, casser les règles. Même s'il n'y a pas réellement de règles dans tout ça. Voilà, vraiment, ça, c'est vraiment important. Commencer simple, expérimenter, et après, on passe à la suite. Mais partez pas tout de suite avec trois têtes, 12 milliards d'accessoires. Vous allez vous noyer là-dedans, et ça sert absolument à rien.
Arthur, merci d'avoir pris le temps de partager ça avec moi. Donc, pour tous les gens qui sont intéressés par le travail au flash créatif type strobiste, il y a un nouveau livre qui vient de sortir chez Pearson qui s'appelle « Zoom sur la photo au flash » par Arthur Azoulay et Aurélie Coudière. Merci Arthur.
Merci Benoît. À bientôt.
À bientôt.
Pour être averti de la sortie de nouvelles émissions et pour beaucoup de contenus supplémentaires, inscrivez-vous sur www.déclencheur.com.